Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Balado. Aujourd'hui est un épisode assez spécial car c'est le premier enregistré avec notre nouvelle coprésidente du GIMF. Pour l'occasion, nous recevons Dr Xavier Huppé, médecin de famille concentrant sa pratique en médecine d'urgence et occupant le poste de chef de division de médecine d'urgence de l'Université Laval. Donc, bienvenue Dr Huppé, nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui.
Merci de me recevoir.
Donc, je vais commencer avec une première question. En fait, d'abord, pour les gens qui n'ont pas assisté à votre conférence de l'année dernière, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler de votre formation médicale ainsi que de votre lieu de pratique?
Oui, donc je m'appelle Xavier Huppé, je suis médecin d'urgence à l'Institut de cardiologie de pneumologie à Québec. De temps en temps, je vais aussi pratiquer à l'urgence de la Malbaie, là où est-ce que j'ai commencé ma pratique. Et effectivement, comme vous mentionnez dans l'introduction, là, je suis à l'université. J'ai un poste 2 jours/semaine là, comme chef de la division de médecine d'urgence, qui est dans le fond une aide au département de médecine familiale et de médecine d'urgence.
Parfait. Donc, par la suite, est-ce que vous pourriez nous parler de ce à quoi ressemble une journée typique pour un médecin de famille qui travaille à l'urgence?
Oui, ben ça donne bien. Là, demain, c'est clairement une journée typique d'urgence que je vais avoir, là. Fait qu'en fait, quand je vais arriver à l'urgence, je me suis laissé un petit peu de temps pour aller chercher mes résultats de laboratoire et les résultats de radiographie, de tomodensitométrie, là. Et je vais faire un tri là-dedans. Là, c'est une des premières choses. Il va y avoir des appels de patients que j'ai eus, donc je vais prendre ça en note, puis je vais faire une petite classification. Ensuite de ça, je vais aller au transfert. Donc, ça, c'est que je vais aller voir mes collègues qui sont sur le plancher déjà. Et là, ce qu'on fait, on se transfère les patients. Donc, les médecins qui étaient là de nuit ou les médecins qui étaient là, donc on prend le transfert des patients. C'est-à-dire que ceux qui sont couchés sur civière, on dit exemple, ce patient-là, il est là pour telle raison. On a demandé tel examen. J'aimerais ça que tu le revoies après l'examen ou j'aimerais ça que tu le réévalues vers midi, exemple, pour voir si on peut libérer le patient ou s'il peut s'en retourner à la maison. Donc, ça, on appelle ça le transfert. Donc, on se parle brièvement des patients là, avec une liste là, et un petit peu des tâches qu'on a à faire là, en fonction des patients. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le tableau, on regarde les patients qu'il y a à voir et automatiquement, on se sépare les tâches en se disant c'est lesquelles qu'on voit en premier et on commence à en faire voir les patients là, un après l'autre. Quand on a des résidents et des externes qui sont là, ils participent au transfert. Et ensuite de ça, on leur demande ben, c'est quoi un peu les objectifs de la journée et qu'est-ce qu'ils veulent travailler, des choses en particulier, des choses de diagnostic, des techniques, etc., etc. Et on s'ajuste en fonction de l'équipe qui est présente à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça, là, je vous dirais, les journées typiques au départ, là. Je ne sais pas si vous voulez avoir d'autres choses ou plus élaborées. Là. Je vous laisse aller avec vos questions, là.
Moi, je trouvais ça assez clair. Je ne sais pas pour Amélie.
Ouais. Moi aussi, de mon côté, c'est bien expliqué que.
Mais on pourrait passer à la prochaine question.
Yes.
Est-ce que vous pourriez nous présenter en fait les différents parcours possibles pour travailler à l'urgence en tant que médecin?
En fait, les parcours possibles, là, bon, médecine familiale est le principal parcours encore actuellement au Québec, parce que la plupart des urgences, là, surtout celles qui sont en périphérie, là, des grands centres, sont gérées par les médecins de famille, là, qui font faire des gardes à l'urgence à ce moment-là. Donc, ça, c'est une des premières avenues. Quand on commence à faire de l'urgence, c'est un peu plus à temps plein et un peu plus en milieu universitaire. Maintenant, ce qui est exigé, c'est pour les gens qui sont en médecine familiale, c'est l'année complémentaire en médecine d'urgence, donc le MU3. Il y a certains médecins qui ils vont commencer à pratiquer à l'urgence sans avoir leur MU3, qui plus tard vont aller chercher leur titre de MU3, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher les titres de compétences au niveau du Collège des médecins de famille du Canada pour avoir ce titre-là. Ça lui permet à ce moment-là d'accéder aux urgences là, un peu plus là, des grands centres à ce moment-là. Bien entendu, il y a l'autre avenue qui est la spécialité en médecine d'urgence aussi, là, qui permet d'accéder en fait, à toutes les urgences du Québec à ce moment-là. Donc, c'est vraiment les avenues. Il n'y a pas d'autres médecins qui travaillent à l'urgence de d'autres spécialités. C'est vraiment les médecins de famille et les spécialistes en médecine d'urgence qui travaillent à l'urgence.
Ok, je comprends.
Parfait. Ouais, donc, justement, sur ça, on se demandait, pourriez-vous nous éclairer au sujet des différences dans la pratique entre un médecin sans un MU3, avec un MU3 et un MU5, par exemple?
Sur le plancher, c'est le même type de pratique. C'est les mêmes patients, c'est les mêmes corps de travail. Et c'est vraiment, là, je vous dirais, là, 95% et plus, là, exactement le même type de pratique. Ce qui va faire la différence, c'est les gens qui ont fait le MU3 ou la spécialité de médecine d'urgence vont avoir beaucoup plus de tâches qu'on appelle académiques. Donc, ils vont faire de l'enseignement et souvent, donc, ils vont commencer à faire de la recherche. Et souvent, les gens qui ont fait la spécialité en médecine d'urgence ont des compétences un peu plus poussées, exemple pour certains sujets très, très pointus. Donc, ils vont devenir un peu on va dire des érudits de certains pôles. Ce qu'il faut dire, que beaucoup de médecins qui font la spécialité en médecine d'urgence vont aller faire aussi des fois un fellowship pour être capable de revenir travailler en milieu universitaire. Donc, ces gens-là sont allés chercher une expertise de pointe, sont souvent demandés pour ce type d'expertise-là. Donc, la différence est là souvent, c'est pour ce qui est de l'implication à l'université, l'enseignement aussi qui est faite aux résidents en médecine d'urgence, là, un peu plus poussé et un peu plus de pointe. Donc, c'est vraiment un peu les différences. Mais au day-to-day, là, quand il y a la salle d'attente à vider, c'est que ce soit, tu sois médecin de famille, MU3, MU5, mais tu vois les mêmes patients, puis tu pratiques de la même manière là, à ce moment-là.
OK. Puis, à votre dernière conférence, nous avons eu plusieurs rétroactions des étudiants qui se demandaient s'il y avait des différences au niveau de la rémunération pour un médecin de famille, un MU3 ou encore un médecin qui a sa spécialisation en urgence. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage?
Oui, pour ce qui est de la rémunération, là, c'est ça. Si on parle médecin de famille ou MU3, du côté là, médecin de famille et MU3, c'est la même rémunération. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir fait une année complémentaire en médecine d'urgence qui va changer la rémunération. C'est négocié par la Fédération des médecins et des praticiens du Québec. C'est des ententes. Donc, c'est le même type de façon de facturer. Et pour un travail équivalent, c'est le même salaire à ce moment-là. Pour ce qui est des spécialistes en médecine d'urgence, eux autres, effectivement, ils ont un salaire augmenté. Je vous dirais, quand même, je regarde les chiffres, là, je vous dirais que c'est quand même à 130 %, peut-être à 140 % là, pour les MU5 là, supplémentaires. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près ça. Il y a une autre différence aussi actuellement qu'on voit. Et que je peux vous dire que c'est des négociations qui se font du côté des médecins de famille et des MU3. C'est du côté ce qu'on appelle les tâches médico-administratives. Actuellement, les médecins spécialistes, donc les médecins en médecine d'urgence, peuvent facturer certaines tâches médico-administratives que nous, les médecins de famille, on ne peut pas faire actuellement. Exemple, je vous dirais, de l'enseignement en milieu hospitalier, etc., etc. Donc, je n'embarque pas dans les détails, mais il y a quand même des différences là, au niveau salarial. Là, puis ça se situe là, environ, ce que je vous dis, à 130-140 % là, de majoration pour les MU5 à ce moment-là.
OK, super. On se demandait quelles sont les différences entre les lieux de pratique possibles en fonction de la formation médicale. Donc, si on n'a pas d'M3, si on a un M3 ou un M5, où est-ce qu'on pourrait pratiquer?
En fait, actuellement, si on regarde, je vais prendre l'exemple de la région de Québec que je connais bien, mais je sais qu'il y a plusieurs régions médico-administratives que c'est comme ça. La région de Québec, actuellement, si on veut rentrer dans le CHU de Québec, l'UCPQ ou l'Hôtel-Dieu de Lévis, là, qui sont les pôles universitaires, on demande aux finissants d'avoir fait leur MU3. Donc, ça fait partie des demandes, là, vu que ce soit des milieux universitaires et d'enseignement. Pour ce qui est des autres urgences en périphérie, on va prendre l'exemple Chauveau, Saint-Anne-de-Beaupré, Baie-Saint-Paul, Malbec, etc. Ça, c'est des médecins de famille là, qui peuvent aller pratiquer là sans problème. Il n'est pas exigé d'avoir le MU3 à ce moment-là. Donc, c'est vraiment ça. Puis pour ce qui est des MU5, mais eux, habituellement, ils sont redirigés vers les milieux universitaires. Mais quand tu as le titre de médecin d'urgence spécialisé, tu ne peux pas nécessairement le pratiquer dans toutes les urgences. Parce
OK.
que j'explique. Les postes sont attribués différemment si on est des médecins de famille ou MU3 versus des spécialistes. Et ça va dépendre des besoins dans les régions et on appelle ça des DRMG, là, des départements de médecine régionale, on va dire, établissent les besoins dans la région. Donc, si un médecin spécialiste qui va aller pratiquer à telle urgence, exemple Baie-Saint-Paul, mais qu'il n'y a pas de poste disponible pour un spécialiste là, mais il ne pourra pas aller pratiquer, même s'il serait compétent pour y aller. Donc, c'est une question d'octroi de poste à ce moment-là. Ça fait la différence. Mais effectivement, MU5 aurait la capacité d'aller pratiquer à l'urgence, dans toutes les urgences, il sort de là extrêmement compétent, là.
OK. Puis, est-ce que vous pourriez nous parler des avantages et des inconvénients, selon vous, d'être un médecin de famille qui travaille à l'urgence?
Je vous dirais les avantages d'être un médecin de famille qui travaille à l'urgence, c'est que bon, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Et il y a deux choses, c'est qu'on peut faire une pratique mixte, premièrement. Donc, j'ai des gens, moi, qui vont faire un deux tiers urgence, mais vont faire des fois même un tiers bureau, où ils vont faire aide médicale à mourir, ils vont faire des soins palliatifs, ils vont faire du médico-administratif. Ça, c'est possible à ce moment-là. Et ce qui est quand même intéressant avec médecin de famille, c'est que c'est un diplôme qui permet de changer de carrière. Donc, si on arrive à un certain moment dans sa vie, fatigué, plus âgé, où est-ce que ça devient très difficile de faire des jours soins nus, fin de semaine, bien, le changement de pratique s'effectue facilement. On est quand même capable de viser le collège des médecins puis de dire on change de pratique, on s'en va en bureau, on s'en va faire l'hospitalisation, etc. Quand on est MU5, là, on reste des médecins d'urgence toute notre vie. Donc, bien souvent, c'est ça, c'est que si on veut se tasser de l'urgence, il faut s'en aller vraiment plus vers le médico-administratif à ce moment-là. C'est-à-dire être à l'université ou aller chercher dans les sphères un peu plus de gestion, etc. Mais tout va rester relié à l'urgence. Donc, quelqu'un qui fait sa spécialité en médecine d'urgence doit savoir et doit être convaincu qu'il veut faire de l'urgence toute sa vie.
OK.
C'est vraiment ça la différence que je vous dirais là, entre les deux. Là. Je vous dirais, à la limite, c'est peut-être un avantage d'être médecin de famille de ce côté-là.
Parce qu'il y a beaucoup de possibilités, justement, si on veut changer
Tout à fait.
de
Quand on est
milieu
au
de
collège des
travail.
médecins, c'est ça. Si un changement de pratique s'opère, si on prend mon cas, moi, ça fait 14 ans que je fais de l'urgence. Si je veux faire du bureau l'année prochaine, parce que je veux faire un changement de carrière, bon, faudrait que j'avise le collège. La chose probablement qu'il me dirait, c'est on va demander ce que tu es une personne qui te surveille pendant 6 mois pour voir si tu es capable de faire le bureau, si tu as les compétences, puis tu es un peu comme un tuteur. Mais ensuite de ça, je pourrais avoir redirigé ma carrière sans problème. Ce qui n'est pas le cas pour un médecin spécialiste en médecine d'urgence. Il ne pourrait pas faire ce changement-là.
OK, c'est super intéressant, honnêtement. Merci. On se demandait aussi, selon vous, quelles sont les qualités à avoir pour travailler à l'urgence?
Bon, donc les qualités, bon, peut-être un brin de folie, je ne sais pas comment dire ça. Je vous dirais, premièrement, ben, faut être un peu leader. On se le fait dire souvent, nous, à l'université, on est des leaders rouges à l'urgence. On est des gens qui aiment ça, l'action-réaction. Donc, il faut être capable de voir qu'il y a une salle d'attente qui est bondée, qu'il y a des patients à voir. Il faut être capable d'aller les voir puis d'avoir la capacité d'évaluer rapidement, de prendre des décisions rapidement aussi. Donc, je ne veux pas dire de ne pas être sécuritaire envers le patient puis tout ça, mais il ne faut pas se mettre à réfléchir pendant une demi-heure sur le cas. Il faut y aller. Puis ça, c'est vraiment, quand je dis d'être leader, c'est vraiment ça. Fait que les gens qu'on voit qui s'en vont à l'urgence parce qu'ils aiment ça, l'action, sont capables de dire, OK, je vais faire ça, je vais prendre telle décision, je vais demander tel bilan, je vais revoir le patient, je passe au prochain patient, etc., etc. On dit tous en blanc qu'on est peut-être un peu tous TDAH à l'urgence, puis que l'urgence nous soigne, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de, comme je vous dirais, d'interruptions, on se fait souvent interrompre, le téléphone sonne, les infirmiers et infirmières viennent nous voir, il y a des cas qui arrivent, il faut être capable de gérer plusieurs choses en même temps. Mais ça, on voit ça chez les gens qui sont un peu TDAH, là, je dirais très hyperactifs, ça permet de les concentrer, puis ils sont capables d'être plus efficaces dans ces domaines-là. Mais quelqu'un qui n'aime pas se faire déranger, interrompre continuellement, etc., ben, faut pas qu'il aille à l'urgence parce qu'il va perdre ses moyens. C'est vraiment ça. Bon, d'où les autres qualités, j'avais sorti mes petites notes, là, mais il faut être capable de s'adapter à toutes les situations, là. Puis, il faut être très, très curieux parce qu'à l'urgence, il arrive de tout et il faut pas laisser aller une partie de domaine, là, qui nous intéresse pas. Parce qu'on va se faire avoir. Tu sais, ça va être le soir que tu vas dire, oh, ça fait longtemps que j'ai pas lu sur tel sujet, qu'il va nous arriver ce cas-là ou ce type de choses-là. Donc, il faut être curieux. Il faut être capable de se maintenir dans ses compétences sur beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, je
OK.
vous dirais, c'est à peu près ça que ça prend, là. Voilà.
Ben, c'est une très bonne réponse, merci. Puis, on a parlé un peu là, de la journée typique, mais en termes d'horaire, à quoi doit-on s'attendre à l'urgence? Par exemple, en nombre d'heures ou comment c'est séparé sur une semaine ou une certaine
En
période.
fait, les quarts de travail, la plupart des urgences, c'est comme ça, là, sauf exception, c'est que ça laisse répartir sur trois quarts de travail, donc de 8 heures là, à ce moment-là. Ce qu'il faut s'attendre, c'est qu'il y a quand même, je vous dirais, entre 15 et 30 minutes de où est-ce que il y a la passation, etc. Donc, on n'arrive pas à 8 heures, puis on s'en va à 16 heures, mettons. Fait que souvent, si on va arriver, il va être 7 h 50, on va partir à 16 h 30, 17 h. Souvent, on va aider les collègues, puis tout ça, pour que le transfert se fasse, puis qu'on puisse, là, dans le fond, terminer certains cas pour aider les collègues, là. Donc, je vous dirais, l'horaire est plus 8 h 30, 9 h. Puis habituellement, là-dedans, il faut essayer de trouver du temps pour aller manger, puis tout ça. Les médecins d'urgence d'expérience sont capables de dire, j'arrête un 15-20 minutes pour aller manger, là, en léguant, là, à des collègues sur le plancher, là.
OK.
Donc, c'est ça. En termes de nombre de quarts de travail par semaine, ça va être variable. Je vous dirais ce qui a été établi là, par les associations de médecine d'urgence comme étant l'idéal, ça serait 150 quarts par année. Ça a l'air peu, mais quand on est dans un milieu universitaire qu'il faut faire l'enseignement puis tout ça, il y a plusieurs tâches médico-administratives qui s'ajoutent. Donc, ça l'ajoute au quart. L'autre chose, pourquoi quoi, 150 sans mettre le chiffre là, idéal, c'est que quand on fait des nuits, des soirs, mais la récupération n'est pas la même. Travailler de jour est plus facile de manière régulière que d'avoir des horaires complètement atypiques. Donc, à la longue, ça devient fatigant. Et pour que les gens puissent pratiquer longtemps l'urgence, ça a été établi que 150 heures par année, c'est l'idéal.
OK.
C'est ça.
Ah, c'est intéressant, merci.
Oui. En début de
Non,
pratique, ça devient plus facile de faire des fois 200 heures, très
c'est...
facilement. Et quand il s'ajoute les enfants, la vie de famille, etc., là, je vous dirais, le 200, 210 quarts, comme j'ai déjà vu pour certaines personnes, mais ça tend à se réduire. Sinon, on perd des joueurs, carrément.
Et vous, est-ce que vous avez justement réduit ou pas encore, vous êtes encore au point que vous pouvez
Oui,
aller
bien
au
là, je vous dirais,
maximum?
c'est la première année que j'ai décidé de réduire. Cette année, je m'enligne pour un 140 quarts, mais j'ai quand même un 2 jours semaine à l'université aussi qui s'ajoute. Donc, c'est quand même, quand je vous dis qu'il y a des tâches, là. Avec le 2 jours semaine, on peut dire que c'est un autre 80 qui s'ajoute si on prend l'année au complet, là. Fait que c'est ça. Ça vient que les horaires sont quand même serrés à ce moment-là. La plupart des milieux universitaires vont tendre vers ça actuellement parce qu'ils veulent garder leurs équipes longtemps. C'est plus productif, ça fait des gens qui ont plus d'expérience sur le plancher, là. La population est mieux servie à ce moment-là.
Parfait. On s'est demandé à quoi ressemble le lien médecin-patient lorsque vous travaillez à l'urgence?
Bon, ben, il est très, on va dire, il est quand même assez puissant parce que souvent, c'est des gens très vulnérables, là. Il n'y a pas personne qui se lève un matin qui se dit, je vais aller me promener à l'urgence pour le fun, m'inscrire et c'est pas prévu dans l'horaire habituellement. Donc, c'est le lien, il faut vraiment, premièrement, bien cibler notre raison de consultation, la raison de consultation, pourquoi le patient vient, puis essayer vraiment de comprendre, tu sais, ce qui l'a amené à consulter, etc., etc. Des fois, c'est très évident, là, tu sais, je veux dire, c'est des, qu'on a des infarctus, des fractures, des plaies, ça se fait quand même assez rapidement, là, ce type-là on va dire, la relation se fait facilement parce que le patient est très vulnérable à ce moment-là. Des fois, quand c'est plus du côté santé mentale, les inquiétudes, etc., ben, la relation est hyper importante parce que le patient, il veut, faut toujours se dire qu'il faut que le patient sorte de l'urgence rassuré, content et qu'on ait réglé son problème, là. Donc, moi, je me fais un leitmotiv de vraiment toujours m'assurer que le patient parte, qu'il ait bien compris ce qu'il y avait comme diagnostic, c'est quoi les conseils que je vais lui donner, puis il reparte, je vous dirais, très content de la consultation. Des fois, c'est pas évident, là, quand il a attendu 8 heures dans la salle d'attente, puis il est tanné, là, mais on apprend avec les années à désamorcer ça, à dire, bon, on s'excuse, etc., puis à comprendre pourquoi il est venu. Puis quand on écoute bien le patient, on est capable de cerner pourquoi il venait, de le laisser partir avec, comment je vous dirais, le bonheur dans l'âme, là. On a réglé le c'est ça. C'est à peu près ça, je vous dirais, la relation qu'on a à l'urgence avec les patients. Puis souvent, on les voit juste une fois dans leur vie, là. C'est ça.
Puis, ben merci encore une fois, là, très, très belle réponse. Puis, vous êtes très impliqué dans le domaine d'enseignement avec les externes notamment, là. Puis, on se demandait justement comment qu'un externe peut se démarquer lors de ses stages à l'urgence.
En fait, il ne faut pas essayer d'épater la galerie, là. Je pense que, tu sais, avec l'expérience qu'on a, on voit les gens qui ont le profil pour faire l'urgence à la base, là. Donc, ça, c'est important de comprendre ça, là. Je vous dirais, je répète toujours la même chose, dans n'importe quel domaine que vous allez aller, il faut vous sentir à l'aise, là. T'sais, que les gens qui s'en vont dans d'autres résidences, comme médecine familiale, etc., il faut sentir qu'on est à sa place puis qu'on le fait parce qu'on le sent pour soi-même et non pour les autres, etc. T'sais, quelqu'un qui arrive et me dit, ah, moi, je veux faire le genre parce que je trouve ça cool, fun, ça a l'air thrillant. Je trouve que c'est pas la bonne réponse à donner parce que des fois, le day-to-day n'est pas ça. Les externes qui se démarquent, ben c'est ceux et celles qui, dans le fond, sont capables quand même d'avoir du leadership. On le sent tout de suite, ça. Ils sont capables d'arriver, de prendre le dossier, d'aller voir le patient. Donc, on a des externes des fois plus hésitants, tu sais, qui sont plus réfléchis, médicus. Et nous, on le voit, ceux-là qui ont le profil d'urgence, sont capables de prendre le dossier, d'aller voir un patient, puis de dire, bon, je suis allé voir le patient, j'ai rien compris, mais voici ce que j'en pense. Puis, tu sais, on peut-tu réviser ensemble? Mais ça veut dire tout de suite, on voit quelqu'un qui est capable d'aller au-devant, etc. L'autre chose, c'est quelqu'un qui est capable de proposer des diagnostics différentiels. On s'en fout qu'il se trompe, là. T'sais, on s'en fout que ce soit écrit, t'sais, on écrit non, oui, non, puis qui est capable de proposer des traitements. T'sais, déjà dire, ben voici ce que je ferais avec. T'sais, je dis toujours en blague, on est poigné dans le bois tout seul, qu'est-ce qu'on fait là? T'sais, moi, je tombe à terre, qu'est-ce que tu fais avec moi? Fait que là, t'sais, c'est là qu'on voit le jugement. Puis les gens sont capables de s'avancer, etc. L'autre chose, c'est de se mettre un timer. C'est se dire, je pense que je vais prendre, exemple, vous pouvez convenir avec le patron, maintenant, je vais prendre 45 minutes pour évaluer le patient, écrire ma note, puis venir vous en parler. Ça, en ayant ça, c'est que ça permet de développer déjà, on va dire, sens de la répartie, puis on va dire, de se lancer vers un diagnostic puis un traitement. Quitte à se tromper. Fait que c'est ça les conseils que j'aurais à donner. L'autre chose, on observe beaucoup aussi, comment que les gens sont capables de s'adapter au stress, à l'urgence, puis surtout aux multiples interruptions. Donc, quelqu'un qui est capable de rester quand même concentré ou qui est capable d'arrêter son travail, de répondre à une question puis de retourner à son travail, mais ça, c'est une qualité qui est déjà recherchée. Et l'autre chose, ben, c'est toujours le professionnalisme, c'est-à-dire être courtois avec le personnel, être courtois avec les autres spécialistes, et puis être capable aussi de parler aux autres spécialistes. Ça, c'est important parce que souvent, ça va arriver à l'urgence. Il faut discuter avec plein de spécialistes. Les gens qui sont capables déjà de dire, ben, moi, voici, j'ai vu le patient, voici ce que j'en pense. Mais ça c'est une belle preuve de, OK, quelqu'un qui est capable de s'adapter et qui va parler à plein de médecins qui vont travailler plus tard à ce moment-là. J'espère que ça répond à votre question.
Ah oui, ça répond
Oui,
très bien, merci.
c'est super, merci beaucoup. On se demandait, avez-vous des conseils à donner pour ceux qui aimeraient être choisis pour faire le MU3?
Oui, en fait, les conseils, ce que je vous dirais, là, pour avoir passé, ça fait 4 à 5 ans que je supervise l'admission MU3, là. C'est pas moi qui prends les décisions parce que je suis pas le directeur du programme MU3, là. Mais ce qu'on voit, les dossiers qui se démarquent, c'est les gens qui ont été constants toute leur résidence. Les candidats, il y a des gens, des fois, qui rentrent en médecine familiale puis ne se sentent pas à leur place. Mais ce que ça fait, c'est qu'il y a certains stages qui sont moins performants. On le voit dans les évaluations. Et ensuite de ça aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on demande une lettre au directeur du GMFU, qui est dans le fond le groupe de médecine de famille dans lequel il évolue. Et au contraire de ce que les gens pensent, quand les gens ils le disent ouvertement qu'ils veulent aller à l'urgence, puis ils sont très performants, mais on a des très belles lettres des directeurs de GMFU. Mais quelqu'un qui s'est dit, ben moi, je vais aller à l'urgence, mais qui était pas bon dans nos stages parce qu'il ne tentait pas, qui a une attitude des fois peut-être un peu déplacée ou qui voulait se mettre un peu sur un piédestal dans son GMFU, mais ça paraît tout de suite dans les lettres de recommandation aussi, puis dans les évaluations de stage. Et ça fait baisser dans la qualité des candidatures. Parce que le message que je passe, c'est que on lit toutes les évaluations, même externes, résidents, les lettres de recommandation. C'est long notre processus, mais tout est passé quasi au peigne fin. Donc, c'est une chose. Et l'autre chose, bien sûr, c'est de démontrer d'intérêt pour l'urgence. Donc, déjà d'avoir fait quelques formations comme les ACLS, les ATLS, de s'être intéressé à l'échographie au département d'urgence. Et peut-être même d'avoir été faire un petit tour dans les congrès de médecine d'urgence pour voir un peu là, ce qui se fait en urgence actuellement. Puis, fait que c'est à peu près les conseils que je dirais là, pour nos candidats là, MU3 là.
Puis par curiosité, c'est quoi la proportion un peu que prend la résidence versus l'externat en termes d'importance pour le choix que vous allez faire pour le M3?
Oh, la proportion, la résidence, énormément.
OK.
Énormément, énormément. Des fois, bon, on va aller vérifier du côté externe, mais tu sais, nous, ce qu'on aime bien voir aussi, des fois, c'est la progression. T'sais, on est capable de voir que des fois, il y a des résidents ou des externes qui ont été en difficulté, mais si on ne s'est pas bien progressé, bon, on voit l'adaptabilité à ce moment-là. Et pour nous, ça ne devient plus un burden, surtout si on a une belle lettre, mettons, du directeur du GMFU, etc. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre là, à ce moment-là, mais c'est beaucoup plus la résidence.
Ok, je comprends.
Oui.
Puis, seriez-vous en mesure de nous mentionner la proportion de candidats qui appliquent, qui sont sélectionnés par rapport à ceux qui ne le sont pas pour le MI3?
Cette année, on est chanceux, on a de plus en plus de gens. Donc, on est rendu à peu près 40% des gens qui sont sélectionnés. Donc, cette année, exemple, on a eu 61 candidatures, nous. On a 9 postes. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 9 fois 4 postes maintenant. Donc, c'est distribué dans les 4 universités. Et les gens, mais ils n'appliquent pas juste à une université. Souvent, ils appliquent à 2, 3 ou 4 là, endroits à ce moment-là. Donc, je vous dirais la proportion, je vous dirais, c'est 40%. Ça a déjà été plus du 20-25%, là. Après les années de pandémie, on a eu jusqu'à 90 mises en candidature, là. Donc, ça venait de plus populaire. Là, je vous dirais actuellement, là, c'est ça. Fait que un petit peu moins qu'une chance sur deux, là, d'appliquer.
Mais si je me souviens bien, on peut faire. Est-ce qu'il y a des critères pour appliquer quand on fait l'examen pour avoir son M3 en étant médecin de famille? Est-ce que vous devez aussi. Est-ce qu'il doit passer en fait par vous ou c'est un autre chemin différent?
Pour avoir l'examen, simplement faire l'examen MU3, ou en fait, ça, c'est le Collège des médecins de famille du Canada qui gère ça. Je ne veux pas me tromper, mais il me semble que c'est après 2 ou 3 ans de pratique en médecine d'urgence, là, on peut demander à faire l'examen et obtenir le titre MU3 à ce moment-là. Non, mais il faut qu'il y ait quelques années de pratique, là. Je sais que ça l'a changé, c'est pour ça que je ne veux pas vous dire, mais ça prend au moins, là, au moins 2 ans de pratique, c'est pas 3 ans. À ce moment-là, c'est les candidats ce qu'ils font, ben, dans le fond, ils se préparent pour l'examen, puis ils font l'examen, puis ils peuvent obtenir leur titre là, de MU3 à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font justement ce parcours-là, là, qui décident de travailler, puis par la suite d'essayer de faire l'examen?
Oui, il y en a quelques-uns par année. Je ne sais pas, j'ai pas les statistiques exactement du Collège des médecins de famille du Canada, mais oui, il y en a. Ils vont chercher ça, puis c'est comme pour certaines personnes, là, bon, ben, ça lui permet de faire une bonne mise à jour, puis ça lui ouvre des possibilités aussi là, dans les milieux universitaires. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est qu'on a des gens, nous, qui font 1 an ou 2 ans de pratique, qui appliquent pour être aussi MU3. Et ces candidats-là, parfois sont pris aussi à ce moment-là. Parce que leur expérience compte, puis ça fait aussi dans les dynamiques de groupe un peu plus d'expérience terrain. Là, on a des gens qui ont déjà pratiqué 2 ans, puis ils viennent faire leur programme MU3 à ce moment-là. Donc, c'est deux avenues, là. La candidature qu'on a eue, bon, elle n'a pas été retenue, mais j'ai déjà vu après 11 ans de pratique, là, quelqu'un qui voulait faire MU3 à ce moment-là. Mais bon, juste pourquoi elle n'a pas été retenue, là, moi, ce n'est pas moi qui prends les décisions finales, là, à ce moment-là. Je peux vous dire que j'ai déjà vu ça, là.
Il n'est jamais trop tard pour appliquer.
Exactement, jamais trop tard pour appliquer.
Puis, on en a déjà parlé là, brièvement, mais est-ce qu'il y a certains aspects particuliers qui sont à considérer lors d'un choix entre un MU3 ou encore un MU5?
Et oui, mais en fait, c'est un peu particulier. Comme je vous disais, si on fait les MU3 ou MU5, c'est qu'on s'enligne vers au moins une carrière d'urgence pour quelques années. MU5, c'est vraiment dire je vais faire de l'urgence toute ma vie. Ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. C'est des spécialistes en médecine d'urgence. Un peu comme un cardiologue, il n'ira pas faire de la pneumologie. C'est un peu ça. Donc, c'est médecine d'urgence. Il faut vraiment être convaincu que c'est ça et se projeter, en fait, là, t'sais, des décennies à l'avance dans une pratique d'urgence. Pour ce qui est du MU3, il faut se projeter effectivement dans un milieu universitaire. Bien souvent, ça ouvre des portes pour des milieux le plus académiques à ce moment-là. Tout en ayant en tête que c'est une pratique qui pourrait changer là, pour d'autres choses. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est vraiment ça. Puis je vous dirais actuellement, ce qu'on voit sur les planchers, les MU3, MU5, ça travaille ensemble, c'est des équipes. Puis quand les milieux de pratique sélectionnent, mais ils regardent, est-ce que c'est un bon MU3, est-ce que c'est un bon MU5, est-ce qu'il fait un jeune ajout à notre équipe qui est intéressant, puis c'est-tu un bon team player aussi, là. Parce que c'est bien beau avoir un diplôme de spécialité en médecine d'urgence, mais si tu ne fais pas dans l'équipe, tu ne fais pas, là. C'est important de comprendre ça aussi, là.
Est-ce que vous considérez qu'il y a quand même une bonne différence au niveau de la qualité de vie entre un MU3, par exemple, puis un MU5?
C'est la même chose. Ce qui arrive, dans le fond, dans les départements de médecine d'urgence, là, chaque équipe a son fonctionnement. Donc, que ce soit MU3 ou MU5, la qualité de vie va aller avec ce que le groupe peut offrir. Et des fois, ça va revenir aussi, on va revenir à chaque individu. Mais si on parle en termes de répartition sur la liste de garde, etc., normalement, toutes les membres d'équipe sont égales là-dessus, là. Et ça va dépendre des équipes, ça dépend de l'âge qu'on a. Des fois, il y a des dispositions pour diminuer le nombre de nuits, diminuer le nombre de gardes, etc. Mais il n'y a pas de différence de qualité de vie, je vous dirais, entre les deux, là. Parce que ça, c'est mon petit commentaire éditorial. C'est pas le fait de gagner plus d'argent dans la vie qui va amener plus de bonheur, je vous dirais. Ben ça,
C'est
c'est vous
vrai.
allez le découvrir avec la vie, ça.
OK, parfait. Puis, étant donné qu'il y a une certaine différence entre le nombre d'années d'études pour être un MU3 ou un MU5, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir moins compétent au niveau de vos capacités par rapport à un MU5, par exemple, à l'hôpital?
En fait, je dirais pas au niveau des capacités, parce que si on parle de capacité, dans le fond, c'est le nombre de patients qu'on a à avoir sur le plancher, puis de réseau. C'est vraiment au niveau des connaissances, je vous dirais, que les MU5 se démarquent, là, parce qu'ils ont vraiment là, 5 années, là, où est-ce qu'ils ont un programme exceptionnel là, à l'Université Laval, je vais prendre comme exemple, là. Donc, des connaissances de pointe, là, vraiment, vraiment, vraiment poussées, là. Donc, c'est vraiment là qu'ils se démarquent. Puis, tu sais, on a des gens qui deviennent... des experts de contenu, je vous dirais, là. Mais à la limite, il n'y a pas de sentiment d'infériorité, c'est plus que c'est un ajout dans l'équipe. Ça fait quelqu'un qui a une connaissance que tu es capable de dire, hey, ça, là, qu'est-ce que tu en penses, là? Fait qu'on a vraiment comme un expert sur le plancher à ce moment-là. Et c'est souvent des experts dans l'équipe. C'est des gens qui vont nous faire des formations ou qui vont amener des changements dans les fonds, dans les façons de pratiquer, puis tout ça, là. Donc, je vous dirais que c'est ça. C'est sûr que des fois, en début de pratique, quelqu'un qui n'a pas fait son MU3, je vais prendre mon cas personnel, c'est sûr que quand j'ai commencé, je n'avais pas la même capacité, exemple, à intuber qu'un MU5 qui finissait je vais dire sa spécialité à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup plus de cours, etc. Mais ça se comble avec les années, avec des formations qu'on s'ajoute par la suite, là, formation continue, parce que faut dire, la formation continue, elle est constante, là. Je veux dire, c'est toutes les années, puis c'est pas juste une exigence du collège. Quand on est dans les milieux universitaires, il faut suivre des formations continues. Puis nous, on s'en fait même entre nous autres. Quand on détecte dans le groupe, exemple, qu'on a quelque chose à améliorer, etc., bon, on se fait des formations en commun, on s'aide, puis les spécialistes sont là, puis s'ils ont de l'expertise, bien, c'est eux autres qui viennent nous la faire, qui viennent nous la montrer à ce moment-là. Mais on les montre plein de choses aussi, les médecins de famille, en contrepartie. Pour dire, avant d'avoir fait leur MU3, ils ont fait 2 ans où est-ce qu'ils faisaient plus de bureaux puis de sans rendez-vous, etc. Donc, bien souvent, notre compétence est là. On est capable de faire on va dire, l'ambulatoire un peu plus de manière fonctionnelle. Et notre relation patient-médecin aussi, des fois, est plus développée en début de pratique. Donc, il y a des conseils qu'on peut donner des fois à certains spécialistes pour dire, ben voici comment j'aborderais ça, etc., là. Donc, c'est un ajout, je vous dirais, là. Le mélange des deux fait de très bonnes urgences au Québec, je vous dirais.
Ben super, merci beaucoup. Puis j'aimerais rebondir en fait là, sur un sujet que vous avez abordé tantôt, un peu la flexibilité pour les médecins de famille de faire par exemple du deux tiers ou du un tiers.
Oui.
En fait, c'est quoi les options qui s'offrent à eux?
En fait, ça va dépendre, là. Je vais vous dire, il y a des milieux d'urgence universitaires qu'on rentre là, puis tu sais, ça serait pas toléré, en fait. Il faut que tu sois all-in urgence.
OK.
OK? Mais ça, ce que je peux dire, c'est que cette personne-là rentre dans ce milieu-là, puis se dit, ça me tente plus, ben, ça en va. Mais elle peut aller pratiquer. Les autres options qui s'offrent, ben, écoutez, assez simple, moi, j'ai des gens qui font des soins palliatifs, qui font de l'aide médicale à mourir, qui font de l'hospitalisation, donc des semaines là, dans certains hôpitaux, font du bureau. Il y en a qui vont aller faire du sans rendez-vous. Il y en a aussi qui vont varier. Donc, ils vont faire, exemple, 2 tiers de la pratique dans un milieu universitaire. L'autre tiers, ils vont aller dans les hôpitaux en région. Ils vont faire un peu de dépannage, etc. Puis ça va combler leur pratique à ce moment-là. Puis, comme exactement dans mon cas, bien, moi, je vais faire 2 jours à l'université, puis je vais faire mon autre partie de pratique là, dans mon milieu de travail, là. Donc, ça permet ça, là. Je vous dirais, je reviens, là, les spécialistes aussi peuvent travailler à l'université. Mais pour ce qui est des médecins de famille, c'est vraiment, on peut varier ce que, dans le fond, dans toutes les ranges de la médecine familiale à ce moment-là.
OK. Ben, je
Puis,
comprends.
je me demandais, moi, en fait, dans votre parcours, c'est quand est-ce que vous avez réalisé que la médecine de famille vous intéressait, mais en plus de ça, l'urgence, c'était quelque chose qui vous intéressait aussi?
Ah, au début de la résidence. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est qu'on est tout de suite un peu. Quand la résidence en médecine familiale commence, bon, il y a des blocs stages qu'on appelle, donc on est capable on va faire telle spécialité, on fait du bureau, etc. Mais on a beaucoup de gardes à l'urgence. Je vous dirais, là, dans les 2 ans de médecine familiale, il y a au moins entre 35 et 40 corps d'urgence qu'on est de garde à ce moment-là. Puis au début, personnellement, moi, je l'ai vu tout de suite, là, j'étais à l'aise là-dedans, j'aimais l'ambiance. Et fait qu'on se découvre parce qu'on apprend beaucoup à se connaître à la résidence, parce qu'on devient des médecins, en fait, là, sous supervision, fait qu'on prend nos décisions. Fait que rapidement, ils se dessinent des profils. Donc, quand les gens rentrent en médecine familiale, on le voit, il y en a qui disent « Ah, ben moi, je veux faire du bureau. » Il y en a qui se disent « Ah, moi, je veux faire plus d'hospitalisation, des soins palliatifs. » Il y en a qui se disent « Moi, j'aimerais ça faire du bureau et des accouchements. » Donc, vous voyez, soins personnes âgées, mais les gens, leur profil se dessine. Comme je vous disais, quand on s'écoute, qu'on se sent bien dans un certain type de pratique, mais on le sent tout de suite, ça. Puis on le sent tout de suite, les gens, pour l'urgence, là. C'est dès le début à R1, là. Nous autres, les nouveaux sont arrivés en juillet, là. Puis déjà en octobre, on est capable de dire, oh, je pense que lui ou elle, là, ils veulent faire de l'urgence. Puis lui ou elle, ils veulent jamais faire de l'urgence. On le sait tout de suite, puis ils nous le disent, ils le verbalisent, là. T'sais, oh, moi, j'aimerais ça. Puis il y en a d'autres qui me disent, moi, vous ne verrez jamais la face à l'urgence de ma vie, là. C'est dans ma pratique plus tard, là. Mais c'est ça. Fait qu'on le sait, en tout cas, personnellement, début R1, puis je vous dirais, c'est ça qu'on voit sur le plancher bien souvent, là.
Ok, super. Mais merci beaucoup. Joey, t'avais-tu quelque chose à rajouter?
Moi,
Une
j'avais pas plus de
question?
questions. Merci.
Moi non plus. À moins que vous ayez quelque chose d'autre à rajouter, là, on avait passé toutes nos questions. Fait qu'on
Super.
ferait
On a déjà
la
passé toutes les
conclusion.
questions.
Ben oui, c'est ça. On s'est rendu à la conclusion. Si vous avez rien d'autre à ajouter, là, sur ce qu'on a dit.
Non, mais en fait, j'aurais rien d'autre à ajouter. Puis ce que je pourrais dire aux gens, c'est si vous en allez à l'urgence, mon message est faites-le pas parce que ça a l'air cool, puis c'est plein d'action, puis c'est vous dire que vous allez carburer à l'adrénaline, parce que c'est pas ça l'urgence. Il y a quand même des moments où est-ce que c'est. Il y a quand même une certaine routine qui s'installe avec des cas, tu sais, un peu plus routiniers. Mais il faut aimer aller à l'urgence parce qu'on veut voir des cas variés, qu'on va avoir des horaires un peu irréguliers aussi. Fait qu'il faut être capable, c'est ça. Puis il faut avoir une bonne capacité, si on va avoir des enfants, tout ça, avec une conciliation travail-famille. Ça, c'est super important parce que c'est quelque chose qui est souvent oublié. Quand on commence, qu'on est tout seul ou qu'on a quelqu'un dans notre vie, mais qu'on n'a pas d'enfant. C'est facile de faire un horaire tout croche puis s'en sortir. Mais avec les années, ça vous prend des bonnes assises pour être capable de passer au travers. C'est le seul conseil que je vous dirais là, en ajoutant là-dessus. Fait que si vous allez à la médecine d'urgence, mais ayez un setup autour de vous autres qui permet de le faire puis qui va être viable à moyen et long terme. Ça, à la limite, bien, vous pouvez demander à des gens comme moi ou des gens autour de vous, c'est quoi vous faites pour vous en sortir puis être capable de prolonger votre pratique. Parce que c'est pas évident.
Mais justement, est-ce que vous avez des trucs que vous avez appris avec le temps que pour mieux concilier travail et famille?
Tout à fait. En fait, c'est que c'est hyper important la définition des rôles avec le conjoint ou la conjointe et les enfants. Et il faut que ça soit clair. Il faut que le conjoint et la conjointe comprennent les horaires atypiques puis soient capables de vivre avec ça. Donc, ça demande souvent des sacrifices de la part de l'autre personne à ce moment-là. Ou s'il y a des couples de médecins d'urgence, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont beaucoup d'aide extérieure. Donc, ça prend bien souvent J'appelle ça, c'est rendu des petites PME. Donc, ça prend de l'aide à la maison. Ça prend des gens qui viennent aider pour faire le ménage, la nourriture. Ça prend des gens pour aussi garder les enfants, faire les lifts, etc. Et d'être capable de combler quand il y a des maladies, etc. Donc, je vous dirais, c'est vraiment ça. Et c'est de se réserver du temps en couple. Ça, c'est hyper important. Nous, c'est écrit dans l'horaire. C'est un horaire de fou, là, mais c'est écrit des fois un mercredi soir, il y a un souper. C'est le monde, habituellement, mercredi soir, ils ne font pas ça. Mais nous, c'est comme ça. Des fois, ça va arriver un mardi soir. On l'écrit, on le fait dans l'horaire. On mange ensemble en couple, puis se garder du temps pour soi, là. Ça, c'est vraiment important. Puis, je vous dirais, c'est ça, c'est prendre le temps de faire la conciliation travail-famille. J'ai aucune idée si vous en parlez au préclinique.
Pas vraiment.
Pas
Non.
vraiment, non, c'est ça. Mais je vous dirais, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de spécialités qui c'est comme ça aussi, là. Il y en a qui passent des 10-12 heures là, à l'hôpital. Mais c'est le conseil que j'ai à vous dire. Il faut que l'autre personne à qui vous embarquez comprenne c'est quoi votre rôle, c'est quoi les horaires de fou, puis c'est quoi. Parce que ça changera pas. Là, 10 ans après, ça va être toujours la même chose. Ça va être les mêmes horaires, puis tout ça. Fait que ce serait mon conseil. Bonne discussion, là.
Merci beaucoup, je pense que ça va éclairer
Merci.
beaucoup de personnes.
Oui, absolument. Joey, tu étais-tu prêt à ce qu'on fasse la conclusion?
Oui, tu peux aller.
Ok, parfait. Donc, merci beaucoup pour cette discussion vraiment intéressante. Cela va assurément avoir permis aux étudiants de se retrouver parmi les différentes possibilités en ce qui concerne leur plan futur dans le domaine de l'urgence. Donc, merci pour votre temps et on se dit à la prochaine pour un autre épisode du Balado Mini.